Oui, bonjour, chers auditeurs. Nous sommes le vendredi 20 octobre 2023. Je suis Yves Dalpé, psychologue, et je poursuis la lecture de mon livre intitulé « L'infidélité n'est pas banale ». Nous étions rendus au chapitre qui s'intitule « L'évaluation de l'infidélité », et plus précisément, nous allons aborder aujourd'hui les raisons qui mènent à l'infidélité. Alors, voici. Si on consulte les grands chercheurs et les grands cliniciens en psychologie, on peut établir qu'il y a environ une trentaine de raisons qui pourraient mener à l'infidélité et qu'on peut regrouper en une trentaine, les six catégories suivantes. La sexualité, premièrement. La recherche de nouveautés et de variétés, la curiosité, la frustration et la privation sexuelle, la recherche du plaisir sexuel, l'excitation sexuelle, la sexualité conjugale insatisfaisante. Deuxième raison, qui s'intitule « L'intimité ». La recherche de satisfaction affective, de compréhension, de compagnonnage, de dialogue, de plaisir et d'attention. Une troisième raison, l'amour. Tomber amoureux, le désir d'obtenir de l'amour et de l'affection, bien sûr. Autre raison, le contexte social favorable, les valeurs sexuelles libérales, les occasions favorables, la séparation physique, la proximité, l'approbation du conjoint, l'égalitarisme dans les rôles. Cinquième raison, le contexte conjugal. Le faible niveau de satisfaction conjugale, l'ennui dans le couple, le conjoint n'est pas attirant physiquement, le désir de vengeance, la rébellion, l'hostilité. Et finalement, le gonflement de l'ego. Le besoin d'améliorer le niveau de confiance en soi et de l'estime de soi, de s'assurer le respect d'autrui, la reconnaissance de sa valeur par les autres, se faire la preuve de sa capacité de séduction, se sentir jeune, se réfugier dans l'évitement et la fantaisie. De telles énumérations éparses sont plutôt décevantes, vous en conviendrez. On reste sur notre appétit. Il nous manque l'évaluation globale du sens des actes extra-conjugaux pour un couple donné et pour chacun des conjoints aux prises avec des conflits intérieurs, avec des conflits conjugaux, avec sa personnalité, avec son histoire et avec sa psychodynamique. Alors, ce qui nous amène au sous-titre suivant, les raisons saines et les raisons malsaines d'être infidèle. Je ne peux passer sous silence un article mémorable du renommé psychologue new-yorkais Albert Ellis, fondateur de l'approche émotionnelle, rationnelle-émotive en psychothérapie. S'insurgeant contre la mentalité des psychologues et des sociologues qui auraient la mauvaise habitude de chercher des motivations malsaines aux relations extra-conjugales, Albert Ellis, en 1979, s'est appliqué à faire la distinction entre les raisons saines d'être infidèle et les raisons malsaines. Premièrement, pour Ellis, comme l'homme n'est pas un véritable animal monogame, il serait normal et sain qu'il se permette de la variété sexuelle en contactant d'autres femmes que sa conjointe. La variété sexuelle lui apparaît comme une bonne raison d'être infidèle. Une deuxième raison saine, selon Albert Ellis, serait le désir de vivre des amours romantiques extra-conjugaux tout en approfondissant sa relation conjugale. Cela lui paraît normal et sain puisque l'humain serait capable de vivre plusieurs amours, autant l'un après l'autre que simultanément. Cette liberté est tellement importante pour Ellis que la privation de tels attachements romantiques extra-conjugaux serait l'équivalent d'être mort. Point d'exclamation. Vivre des expériences et des relations humaines enrichissantes serait aussi un besoin qu'on pourrait combler de façon légitime par des relations extra-conjugales. Albert Ellis poursuit sa liste avec la recherche bienfaisante d'aventures pour compenser la vie nécessairement routinière du mariage et de la famille. Et la simple curiosité sexuelle serait aussi une justification normale de l'infidélité. Aussi, les événements culturels et sociaux susceptibles de conduire à des comportements extra-conjugaux tels les congrès, les voyages d'affaires, les réunions de différents regroupements, etc., seraient des occasions normales de céder à la tentation. Et finalement, la privation sexuelle à l'intérieur du mariage serait aussi une bonne raison de s'orienter vers l'infidélité afin de compenser cette lacune sexuelle tout en sauvegardant le couple. L'infidélité, en effet, empêcherait l'infidèle de développer de l'hostilité contre sa conjointe ou son conjoint, hostilité qui pourrait dégénérer en rupture. Et puis, Albert Ellis enchaîne avec une série de mauvaises raisons d'être infidèle. C'est alors qu'il disqualifie la faible tolérance à la frustration conjugale, l'hostilité contre son conjoint, la fuite de ses problèmes conjugaux et personnels, les dysfonctions sexuelles, le manque d'estime de soi, le besoin de rehausser sa valeur personnelle et le besoin excessif d'excitation. Le texte d'Ellis se termine par une série de critères pour évaluer la salubrité des comportements extra-conjugaux. Selon lui, l'infidélité serait donc saine aux conditions suivantes. L'infidélité ne doit pas être compulsive en ce sens que la personne infidèle doit préférer avoir des relations extra-conjugales sans en éprouver un besoin absolu. Ensuite, l'infidélité ne doit pas déranger le mariage de l'infidèle non plus que ses relations familiales et son existence en général. Aussi, l'infidèle ne doit ni se condamner ni se punir lui-même pour ses infidélités. Ensuite, l'infidèle ne doit pas avoir recours à l'infidélité pour fuir ses problèmes. Aussi, l'infidèle doit être tolérant envers lui-même et peu hostile envers son partenaire conjugal. Et finalement, l'infidèle doit s'adonner aux relations extra-conjugales par pur intérêt sexuel et non comme moyen de thérapie sexuelle. Même si Albert Ellis a été l'un des psychologues les plus renommés et les plus prolifiques du 20e siècle, on peut se demander si ses perspectives extra-conjugales relèvent vraiment de la psychologie. Cela ressemble plus à une utopie prise de position favorable à la liberté sexuelle sans tenir compte des heurts, de la confusion, de la dévalorisation et des dommages conjugaux à long terme qu'engendre souvent l'infidélité, même la supposée infidélité saine telle que définie par Albert Ellis. J'ajouterai que, dans son texte, en 1979, Ellis fait fi des notions élémentaire de la psychodynamique, de la psychologie et de la nature des relations de couple. Pour moi, l'infidélité doit être évaluée globalement dans un cadre beaucoup plus large, comme j'essaie de le démontrer tout au long de ce livre. Malgré tout ça, ça ne m'empêche pas de penser que certaines infidélités peuvent avoir des retombées positives, surtout si on se situe au plan individuel et non au plan du couple ou de la personne trompée. Par exemple, certaines personnes se sentent coincées dans leur relation de couple et se sentent tout à fait incapables d'en sortir. Des expériences extra-conjugales renforcent leur confiance en elles-mêmes, ce qui leur permet de quitter leur conjoint. Il arrive parfois que cette nouvelle estime d'elles-mêmes, née de leur infidélité, améliore assez le rapport de force avec leur conjoint pour que la relation conjugale en devienne plus satisfaisante. Mais voilà une stratégie délicate qui n'est pas recommandable parce que trop risqué si l'objectif est de sauver le couple. Même évaluation quand l'infidélité déclenche une sonnette d'alarme salutaire pour ramener un conjoint qui tenait trop l'autre pour acquis. Parfois, je me dis aussi que mieux vaut une infidélité qu'une dépression majeure, quoique là encore, ce soit un pari risqué. Une femme n'en peut plus de la disette sexuelle que lui impose son mari et elle s'interroge sur son pouvoir d'attraction sexuelle jusqu'au jour où elle se permet une aventure extra-conjugale qui lui fait réaliser que son mari est en fait homosexuel. Il y a donc assez de situations particulières. Et la vie est suffisamment complexe pour que je n'aie jamais la réaction spontanée de mépriser un infidèle. Chaque personne cherche à s'adapter à la vie au meilleur de sa connaissance. Nouveau sous-titre, les couples trop gentils. Le psychologue des relations extra-conjugales, la psychologie des relations extra-conjugales, dis-je, la plus éclairante que je connaisse, est celle d'Emily Brown, qui a publié en 1991. Avec ses 5 sortes d'infidélité, l'auteur fait bien ressortir les principales fonctions de l'infidélité pour en démontrer la cohérence de ce choix pour les individus et les couples concernés. Cette grille d'analyse débouche même sur des pronostics probables de résolution de la crise de l'infidélité pour les couples. Sous l'appellation d'évitement des conflits, Emily Brown regroupe les infidélités de jeunes couples vivant ensemble depuis plus ou moins 12 ans qui manquent d'affirmation l'un envers l'autre. Même s'ils sont en colère un contre l'autre, ces gens-là reste gentil et contourne les conflits. C'est le genre de couple qui ne se dispute jamais. Résultat, 2 points, la frustration intérieure s'accumule et le plus frustré des deux peut verser dans l'infidélité en guise de protestation contre les irritants infligés par l'autre. Mais d'habitude, cette infidélité est brève et l'infidèle s'implique peu affectivement dans l'infidélité, tout en s'en sentant très coupable. C'est toujours avec satisfaction que j'identifie ce type d'infidélité chez un couple qui me consulte en désarroi parce que j'ai de bonnes nouvelles à lui apprendre. En effet, comme les conjoints tiennent généralement beaucoup l'un à l'autre malgré leur frustration, le pronostic est très favorable et la probabilité de divorce faible pour peu que le couple se mette au travail thérapeutique. Autre sous-titre, les couples chicaniers. Une bonne nouvelle attend aussi les couples que je classe dans cette catégorie qu'Emily Brown nomme l'évitement de l'intimité. Chez ces couples chicaniers, l'infidélité arrive plus vite, cependant, disons en moins de 6 ans après la formation du couple. Mais en général, là aussi, l'infidélité est brève, avec peu d'implications sentimentales. Les couples de cette catégorie sont à l'opposé du premier groupe de couples trop gentils sur le plan de l'affirmation de soi. Ce sont des chicaniers dont les querelles intenses servent le but inconscient de créer de la distance. Ces conjoints-là se disputent pour éviter une trop grande intimité, une trop grande proximité. Ils sont facilement en colère l'un contre l'autre et ils le manifestent de façon intempestive. L'infidélité leur sert à créer de la distance et à exprimer leur colère. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser à la première vue, le pronostic peut être très favorable tout simplement parce que ces conjoints s'aiment vraiment malgré tout. En général, ils ont beaucoup d'énergie et l'intervenant peut tabler là-dessus pour les amener à dépasser leur style combatif. Une meilleure satisfaction conjugale s'ensuit et l'infidélité cesse, j'y reviendrai. Autre sorte d'infidèle, le titre c'est « Les maniaques sexuels ». Le pronostic des 3 autres sortes d'infidélité suggérées par Emily Brown sont moins optimistes. Dans le cas de la « sexual addiction », qu'on pourrait traduire en français par « dépendance de la sexualité » ou « sexaholisme » ou encore « hypersexualité », les chances de changement chez le conjoint concerné sont minimes. Mais d'habitude, le couple ne se sépare pas pour autant. Cette sorte de comportement extra-conjugal ayant pour fondement une sexualité débridée regroupe presque exclusivement des hommes qui ont toujours été infidèles et qui le seront toujours. Ils vont d'une partenaire sexuelle à l'autre sans s'attacher. La quantité d'activité sexuelle peut être considérable, ainsi que le nombre de partenaires sexuels. Ils sont gourmands. C'est pourquoi je les appelle ici les maniaques sexuels, mais je consacre un chapitre à ce sujet dans le chapitre 6, en utilisant des termes plus respectueux comme les hypersexuels ou les dépendants de la sexualité ou encore les accros de la sexualité. Ces hommes-là sont habituellement habités par un sentiment de vide et ils cherchent fébrilement à combler ce vide par la séduction, les émotions fortes et les idées de grandeur. Ce sont souvent des carencés affectifs, même s'ils tiennent à leur épouse et à leur famille, leur vie conjugale ne les satisfait pas et ne les comble pas. D'habitude, la conjointe est une personne dépendante qui préfère fermer les yeux sur les infidélités soupçonnées. Le couple peut fonctionner de cette façon toute une vie, du moins, à moins que des événements dramatiques comme une humiliation publique suivant la découverte de frasques sexuelles du mari viennent perturber l'équilibre conjugal malsain. Bien que ces hommes-là soient peu motivés à s'auto-analyser et à changer leur comportement, il m'arrive d'avoir du succès en thérapie auprès de certains d'entre eux. Autre sous-titre, le mariage vide. C'est un diagnostic désolant à poser dans le contexte d'une thérapie conjugale. Désolant parce qu'il y a peu d'espoir pour le couple alors que l'un des deux conjoints s'accroche désespérément. Cette sorte d'infidélité est l'apanage d'individus qui sont désinvestis depuis longtemps de leur mariage, mais qui restent quand même au foyer. Ce sont surtout des hommes matures, disons entre 40 et 60 ans, quoique on retrouve de plus en plus de femmes dans la trentaine qui vivent cette situation. Le couple fait souvent chambre à part et les relations sexuelles sont peu fréquentes quand elles ne sont pas tout simplement inexistantes. La communication est troublée, sinon absente. Le mariage est presque mort. Il ne sert plus à rien dans cette structure. Le mariage est pratiquement mort. Il ne se passe plus rien dans cette structure conjugale vide, d'où le nom de mariage vide. Très souvent, les deux conjoints sont d'ailleurs déprimés. L'homme désabusé a trouvé une solution. Incapable d'abandonner son épouse, il a pris une maîtresse. Typiquement, cette maîtresse est une femme disponible et est soit célibataire, soit veuve, ou divorcée, ou encore sur le point de se séparer. Et elle l'attend. Cette attente peut durer plusieurs années. La psychothérapie est extrêmement utile dans ces cas pénibles. L'objectif est alors de faire débloquer l'ambivalence incrustée dans cet homme infidèle et de l'amener à se positionner courageusement. Souvent, en thérapie conjugale, l'épouse prend le psychologue en grippe car elle craint que celui-ci lui enlève son mari. Ceci n'est certainement pas le but de l'intervenant, mais la situation maritale ne peut continuer sans que les deux conjoints soient perdants. Mais il arrive à l'occasion que de tels mariages soient revitalisés par un processus thérapeutique qui amène les conjoints à régler de vieux conflits et à retrouver le plaisir d'être ensemble. Ça arrive. Et finalement, la dernière sorte d'infidélité, la sortie qui s'intitule la sortie de secours. Finalement, le dernier type d'infidélité du modèle d'Emily Brown ne représente aucun espoir pour la survie du couple, puisque l'infidèle a recours à l'infidélité précisément pour mettre fin à sa relation conjugale. C'est peut-être le type d'infidélité le plus triste à traiter dans le cas de la thérapie conjugale. En effet, la personne trompée découvre subitement l'infidélité de son conjoint et en plus de se retrouver impuissante à garder ce conjoint sans rien y comprendre. Elle s'accroche à quelqu'un qui veut se décrocher d'elle sans lui dire clairement ni être capable de dire pourquoi il a choisi de fuir par la porte d'en arrière. La situation peut être pathétique. J'ai reçu des couples, par exemple, qui attendaient la venue d'un bébé, des femmes enceintes qui ont besoin du soutien émotif et matériel de leur conjoint et qui se retrouvent plutôt éjectées du nid conjugal. Malheureusement, les consultations conjugales ne servent pas à rassurer ces personnes en désarroi et encore moins à raffermir le lien conjugal. Il n'y a rien d'autre à faire que de clarifier la situation et inviter chaque conjoint à affronter la réalité sans faux fuyant. Ce genre d'infidèle laisse habituellement plein d'indices de son infidélité dans l'espoir de se faire prendre et quelle n'est pas sa déception quand sa conjointe ou son conjoint veut lui pardonner. Typiquement, d'ailleurs, une fois la séparation accomplie, cet infidèle abandonne sa maîtresse qui aura rempli sa mission, celle de lui faciliter la séparation conjugale. L'infidélité comme sortie de secours du couple est la pire façon de terminer une relation conjugale car elle suscite énormément d'animosité de la part du conjoint trompé, trahi et abandonné. De plus, comme les vraies raisons de la séparation n'auront jamais été examinées, la personne trompée s'imagine à tort que la raison de la rupture est l'infidélité. Des fois, Elle s'en prend à la maîtresse ou à l'amant comme si c'était le vrai coupable. Peine perdue, mauvaise cible. Les conjoints resteront donc dans une ambiguïté nocive. Le deuil de cette relation ne sera pas fait correctement et pourra hanter les conjoints plusieurs années après la dissolution de leur union. De plus, il y a de fortes chances que cet infidèle répète son stratagème dans une future relation maritale. Alors voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, chers auditeurs. Je vous invite à visiter mon site Internet afin d'y découvrir mes autres livres et mes services. Et on se retrouve dans environ 2 semaines. Mon site Internet, www.danepeu.com. Au plaisir!